Vous écoutez France Inter, il est tout juste 15h04, on retrouve la librairie francophone. Bonjour Emmanuel Quérin.
Bonjour Dominique Delaroy, ravi de vous retrouver ici en direct. Une émission un peu particulière aujourd'hui, car elle a été enregistrée avant la mort de Jacques Higelin. Avec le chanteur Kali, qui le connaissait bien, vous allez l'entendre, il y a une grande émotion sur le plateau, mais nous n'évoquerons pas Jacques, car il était tout simplement vivant quand nous étions au micro. Nous serons aussi en direct à la fin de l'émission avec un hommage en musique.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio France,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous partons dans le monde de l'enfance aujourd'hui avec un chanteur, mais aussi en Iran et à Montréal avec une auteure et ses fans. Le chanteur Kali publie son premier roman, un récit très personnel, absolument bouleversant. « Seuls les enfants savent aimer » analyse la vie et la construction d'un enfant après la disparition de sa mère. Doux, subtil et émouvant, l'artiste touche nos cœurs et nos âmes. Bonjour Kali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Quand on perd sa maman, on reste un enfant toute sa vie ou on porte une armure ?
Waouh. J'aime croire qu'on reste un enfant toute sa vie, ouais, vraiment.
C'est ce que vous êtes resté, vous ?
Je suis resté un enfant qui a besoin de sa maman, qui lui parle tous les jours et qui se construit avec ça, qui essaye.
Bien. On va raconter cette histoire très touchante. Il y a déjà beaucoup d'émotions sur le plateau, dans le studio. Kali est ici avec nous pour ce roman qui va forcément vous bouleverser. Et Kali qui jouera aussi un titre tout à l'heure à la guitare.
Avec joie, oui.
Avec un extrait de votre dernier album en date. À tout à l'heure. Il sera question des failles d'une famille avec l'écrivaine suisse Pascale Kramer. Peut-on empêcher un membre de sa famille de se détruire ? C'est la question que nous poserons. Et puis nous irons en Iran avec Negar Javadi pour une séquence libre de poche, mais aussi à Montréal pour un reportage dans les coulisses d'une séance de signature avec la célèbre Marie Laberge, entourée de ses fans, moment jubilatoire.
La librairie francophone. Emmanuel Quérad.
Et comme toujours, quatre libraires nous accompagnent pour cette émission. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose, très disciplinée, je vous félicite. Vous représentez donc la Suisse. Tout va bien Dominique ?
Tout va toujours très bien.
Bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique dans votre belle librairie La Licorne.
Voilà,
à Bruxelles. Et pour la France, cette semaine, vous le connaissez maintenant, c'est Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier à Puteaux qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va super.
Bien, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu.
C'est ça. Après mes vacances, c'était
super. C'est bien de vous retrouver. Ouais. Au Canada, cette semaine, on retrouve Marie-Noëlle Blé. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal, dans la célèbre librairie Raffin. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Pascale Kramer.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une grande personnalité suisse, auteur de livres salués par le public mais aussi par la critique. Votre roman sur les failles familiales est assez surprenant. Nous verrons d'ailleurs comment ont réagi nos libraires. Ils nous diront ce qu'ils en ont pensé. Mais on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle étonnante. Vous avez carte blanche. Ça tombe sur vous aujourd'hui, Pascal.
Oui, alors
que voulez-vous transmettre ?
J'ai eu du mal à trouver une idée. Pourtant, il m'arrive très souvent des petites choses un peu magiques. Donc j'en ai trouvé une qui est littéraire. Donc je me suis dit que ça tombait bien. J'avais loué mon appartement à une jeune femme japonaise pour Noël. Et j'avais compris qu'elle venait faire des recherches. Moi, je ne l'avais pas croisée à son arrivée. Je la vois au moment où elle partait. Et je lui demande sur Compavarde et je lui demande sur quoi elle faisait ses recherches. Et elle me dit sur Sainte-Beuve. Or, il se trouve que chez moi, je n'ai qu'un seul portrait encadré, c'est Sainte-Beuve, le buste que j'avais pris en photo au Jardin du Luxembourg quand j'habitais rue Sainte-Beuve. Et donc voilà, la coïncidence était amusante et on est resté en contact avec cette jeune femme.
Le
voilà.
Hasard de la vie.
Oui.
C'est pas mal, les petits hasards de la vie, vous en avez connu, Kali, vous ?
Oui, ouais. tous les jours.
Tous les jours. Vous avez des histoires à raconter tous les jours. Bon, on retrouvera Pascale Kramer qui est avec nous et qui est donc dans la librairie francophone cette semaine.
La neige est tombée cette nuit. La neige, c'est l'or des tout petits. Et l'école sera fermée. Seuls les enfants savent aimer.
Cali est donc dans la librairie pour son premier roman « Seuls les enfants savent aimer » paru aux éditions du Cherche Midi. C'est aussi le titre d'une chanson dont on vient d'écouter un extrait. Votre personnage Bruno a 6 ans lorsque sa mère meurt de maladie, le laissant avec son père, son frère et sa sœur. C'est votre histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé.
Oui, mes deux grandes sœurs, en fait on était 4, j'étais le dernier. C'est mon histoire, c'est le début de ma vie. Et on se souvient de quoi, à 6 ans, moi j'ai ce souvenir indélébile au fond de moi, tatoué pour toujours. C'est ce jour-là où je n'ai pas tout compris parce qu'on m'a mis dans une pièce toute noire, des volets presque fermés. Et j'ai pu apercevoir un cortège. Il y avait tout mon village, ma famille qui accompagnait maman. Et moi j'ai pas pu aller lui dire au revoir. Mais je ne savais pas ce qui se passait à 6 ans. Voilà.
Ouais. Vous vous sentez un petit peu à l'écart parce que, effectivement, c'est trop dur pour un enfant de 6 ans d'aller à un enterrement, donc on ne vous emmène pas. On brûle les affaires de votre maman aussi.
Ouais.
Et puis vous êtes comme ça à l'école, un petit peu perdu, en réalisant à moitié, et puis il y a un petit nouveau qui arrive. Alors lui, c'est ça, on rajoute une couche, si je peux dire, parce que il vous pique un peu la vedette.
Ouais,
y compris votre amoureuse, hein? Carole Bobet.
Ouais, Carole Bobet, ouais. Mais en tout cas, cet Alec, là, le petit nouveau, le jour où il est arrivé, c'est ce souvenir très précis où je me suis dit, ce garçon-là, je vais le suivre toute la vie. Et on va s'aimer toute la vie. Et aujourd'hui, à nos âges, nous nous aimons depuis toujours. Ouais.
Ah, vous êtes encore avec lui? Vous le voyez toujours?
Oui, c'est toujours mon grand ami.
C'est l'amour d'un ami qui vous a sauvé à 6 ans?
Oui, je pense, parce que lui avait ce chagrin-là de son papa très dur, très sévère. Et il pleurait souvent parce qu'il ne pouvait pas dire je t'aime à son papa, c'était compliqué. Et moi j'avais cette tragédie au fond de moi, donc on se réfugiait chez les uns, chez les autres. Et on était chacun une béquille l'un pour l'autre. Et ça m'a sauvé, oui, c'est clair.
Mmh. Vous vous jetez dans ses bras, hein. Vous dites j'ai besoin d'affection.
Oui, je crois qu'à ce moment-là je me suis jeté dans les bras de pas mal de monde.
Ouais, ouais.
J'ai dû crier, j'ai besoin d'amour un peu partout, c'est sûr.
Vous dites, il peut me demander n'importe quoi, j'accepte. Et vous vivez comme ça à moitié chez lui. Le petit garçon de 6 ans que vous êtes trouve du réconfort dans cette famille, avec sa maman aussi qui vous apporte un peu d'affection.
Oui, Marie-Josée, ouais. Elle sait ce qui se passe pour moi. Et ils sont également 4 enfants chez les Jolies. Et je suis donc le 5e. Je suis accepté. Et... ouais, ça m'a vraiment sauvé la vie, j'en suis sûr.
Alors le papa se mure dans le chagrin, on a beaucoup de compassion hein, pour lui, il est désarmé, désemparé, mais il porte ses enfants quand même, il est là avec vous, il vous soutient vraiment.
Oui, mais papa, faut savoir qu'il avait ce physique à la Lino Ventura, et ce visage aussi à la Lino Ventura, et avant le départ de maman, elle est partie à 33 ans, les témoignages du village, tout le monde s'accorde à dire que c'était le couple le plus beau, elle était mise vers les bains, ma maman, donc c'était, et ils étaient heureux, et donc après ça, il a sombré. Et je me souviens de cette phrase, je l'ai utilisée dans une chanson, je l'ai utilisée dans le livre. Il nous a dit, je ne vais pas mourir tout de suite, mais je vais mourir jusqu'au bout.
Ouais.
Et donc,
vous le dites plusieurs fois ça. Hein.
Voilà, donc il sombre. Mais ma grande sœur Sandra, qui avait 12 ans, évite le désastre et elle s'occupe du petit garçon, donc de Bruno, et puis du papa, et de toute la famille. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille de 12 ans. Et je me dis, quand je la regarde, c'est quand même fou. À cet âge-là, ma grande sœur qui s'est occupée de nous, comme ça, on lui a quelque part volé un petit bout de son enfance, c'est sûr.
Vous écrivez, j'aimerais tellement t'aider, te protéger comme tu essaies de me protéger. Je n'ai que 6 ans.
Ouais.
Bon, on va laisser la place à nos libraires. On va dissiper un peu l'émotion, Cali, hein, parce que sinon on va pas arriver au bout de l'entretien. Avec nos libraires qui ont lu votre livre, les 4, Cali. Le Canada, la Suisse, la France ou la Belgique? On commence par qui?
Les Belges.
Les Belges. Allons-y, Déborah Damblon qui représente les Belges.
Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux dire, moi, après un tel texte? Qu'est-ce que je peux dire après un tel sujet? Ben, sinon, qui touche à l'absolu de l'humanité, qui touche à l'absolu de l'universalité, et qu'à travers les yeux de ce petit, ben, vous nous offrez en quelque sorte la parabole de tous les deuils. Et que, quels que soient les âges des uns et des autres, quand on perd un parent, mais on ne peut le vivre qu'au plus profond de notre enfance. Et tellement le chagrin qu'on ressent est ancestral et ne ressemble à aucun autre.
Bien, Thomas Auxerre pour la France.
Eh ben oui, écoutez, alors moi j'ai eu plein d'empathie dès le début
pour ce jeune Bruno très touchant. On est proche de lui, je dirais même qu'on fait un peu partie de la famille. En fait, en plus c'est bien raconté, c'est immersif. Moi j'ai plongé dedans.
Oui, c'est vrai.
Par contre, j'ai un petit peu décroché au moment des colonies de vacances. Là, je vous en veux un petit peu parce que bah, finalement c'est assez dur ce moment.
Ouais.
Et puis ce petit orphelin, il a plus envie de grappiller de l'amour. Donc voilà, une fin peut-être que j'ai trouvé un petit peu moins aboutie, mais par contre le livre m'a vraiment beaucoup plu. Ouais.
Les colos, on va revenir sur la colo, c'est effectivement un moment très dur. Marie-Noël Blé pour le Canada.
Oui, bah moi j'ai trouvé très réussi que le style soit pour l'essentiel empreint de la naïveté de l'enfance. Ça permet à mon sens une très grande vraisemblance. On arrive très très bien à se mettre dans la peau du petit Bruno. J'ai toutefois été un petit peu moins convaincue par l'enchaînement et le rendu des nombreuses tragédies que vit le petit narrateur. Hein. Le lyrisme excessif de certains passages qui sont comme en rupture avec le ton plus naïf, empêchant à mon sens d'atteindre une ouais. réelle profondeur.
Ça, le lyrisme, c'est Kali. Hein. Quand on connaît ses chansons, c'est le principe de Kali, c'est le lyrisme. Donc, vous ne pouvez pas lui jeter la pierre. Mais c'est vrai que tous ces drames, il y en a beaucoup, hein, Kali, c'est vrai, mais ils ont tous existé. Enfin, vous n'en rajoutez pas.
Non. J'en ai enlevé peut-être un peu en plus.
Dominique Bressot pour la Suisse, vous voulez intervenir. Êtes-vous d'accord avec vos collègues?
Pas complètement, non. En fait, moi, j'ai été un peu déstabilisée par ce livre, et puis sans trop savoir pourquoi au départ. En fait, j'arrive pas à croire, même si c'est vous-même que vous décrivez des années plus tard, que vous pensiez comme ça à 6 ans. Et c'est le paradoxe qui m'a empêché de rentrer vraiment dans le livre. C'est, j'ai l'impression qu'en mettant le roman à la troisième personne, j'y aurais plus cru. Mais c'est plus une question de forme que de fond. Ouais. C'est le fond est extraordinaire.
Bon, on n'est pas trop d'accord avec Thomas, plutôt mieux. C'est un point de vue. Bon, le petit garçon Bruno, vous, Kali, est assez perturbé, ça se voit. Il dérape un jour face à Carole Bobet lors d'un spectacle d'enfants. Il se questionne sur la mort aussi, sans cesse. Et vous écrivez « La mort n'existe pas. Le désespoir, lui, je peux le toucher. C'est une matière visqueuse, une mauvaise sentinelle postée sur le chemin. Elle me surveille. Depuis ton départ, chaque jour crée une distance nouvelle. »
Ouais, depuis... En fait, je vis les jours que maman n'a pas vécu. Mais dès le départ, c'est un petit peu faussé, parce qu'à 6 ans, on ne sait pas la mort, on ne sait pas la trahison ni le mensonge. Et j'entends mon oncle Octave rentrer chez lui, je suis là derrière une porte opaque, une vitre comme ça, et je l'entends dire à sa femme, Mireille est décédée. Mmh. Et Mireille, je sais qui c'est, mais décédée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les temps d'après... Je vois mon frère pleurer, donc évidemment je veux faire comme mon grand frère.
Qui a 11 ans lui, hein,
oui,
à ce moment-là.
Mais je ne réalise pas que maman est partie. Donc je suis persuadé que c'est un mensonge, c'est une trahison peut-être. Le fait de m'envoyer en colo de vacances aussi pour m'éloigner encore plus d'elle. Elle est où, elle est où? Mais à 6 ans, je ne réalisais pas encore l'abîme de la fin, quoi.
En colo d'ailleurs, vous gardez le silence, vous décidez ça. Oui. Et pourtant vous êtes entouré, il y a un sympa moniteur, Christian, vous êtes très dur avec lui, il essaye pourtant de vous aider, mais... Ouais, vous refusez tout ça, quoi.
Je refuse, et puis là, je rentre dans la cruauté, quoi, ouais. Dans mon à cet âge-là. Ce mono qui veut absolument m'aider, qui veut absolument me faire sortir de tout ça, qui comprend mon chagrin, il le sait, il a parlé avec mon papa. Et moi, je refuse tout, et plus que tout, même presque, je vais jusqu'à l'humilier.
Ouais. Et vous vous en voulez, Kali. Déjà à 6 ans, vous vous en voulez. Parce que ce petit garçon, il tue les fourmis, comme on a tous fait, si je peux confier ça aussi. Vous avez rejeté aussi un enfant malade, un copain à vous, Jean-Pierre Bigny, oui. Qui meurt, lui, d'une leucémie.
Oui.
Un mois après, l'après-midi à la piscine où vous l'avez rejeté. Et vous dites, vous écrivez, « Je ne suis bon qu'à faire le mal ».
C'était... mais c'est ça. C'est-à-dire que le petit garçon se dit que si sa maman est plus là, ouais. Si elle est malade, c'est peut-être lui aussi, quoi. Au fond, lui, il le pense. Et tout ce qui découle de ce drame, le papa qui sombre, bah, le petit garçon, il se dit « Moi, je suis au milieu de tout ça, c'est peut-être ma faute, ouais. Tout ça, ouais. »
Pourtant, il y a un élan. Il y a un espoir, quand même. Il y a des moments d'espoir.
Oui, je suis sûr que...
Il se dit à un moment, j'ai un chemin, je le vois.
Oui, mais au fil du livre, je sens moi-même, quand je l'écrivais, j'ai senti que le petit garçon revenait à la vie. Et c'est pour ça que j'ai su le point final, j'ai su que je devais m'arrêter là. Je revenais, comme si je sortais de l'eau à ce moment-là, oui.
Cette musique de Vivaldi, le printemps de Vivaldi. Oui. Écoutez votre maman, vous le citez, ce morceau deux fois dans le livre. Là aussi, ce sont des moments d'espoir, ça vous rend joyeux?
Oui, parce que ce sont des moments très précis. Ces moments de grande force avec les mômes, il faut leur faire vivre. Nous étions à la cour, nous courions partout, et maman allait chercher le tourne-disque de la maison pour passer cette musique. Et je me souviens de son sourire et de tous ces mômes qui couraient partout. Ouais. Mmh.
C'est donc ça la vie, des rêves qui se noient petit à petit, un sac où s'entassent pêle-mêle amour et joie, des chagrins qui pèsent et vous emportent vers le fond, un sac que l'on porte en vacillant, alors on chute, notre vie se blesse à chaque mètre.
Oui, et chaque moment, chaque souffle est important. J'ai pu dire à Carole Bobet, la petite fille, qui est partie l'an dernier, elle nous a quittés l'an dernier.
Ah bon?
Et j'ai pu lui dire, tu sais, il faut que tu tiennes bon parce que je suis en train d'écrire quelque chose sur toi là. C'est toi le héros un petit peu de l'histoire. On était tous amoureux de toi. Elle a pas tenu jusqu'au bout et le hasard fait que j'ai envoyé le manuscrit à mon éditeur le jour où elle est partie. Et j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu l'objet, le livre, parce que pour toute la vie, les gens que j'aime, dont cette petite fille, sont quelque part quoi, chez des gens maintenant, aujourd'hui.
Ouais, vous avez eu peur d'aimer, Cali, parce que à un moment, on vous offre un petit chat pour l'anniversaire de vos 7 ans.
Ouais.
Et on s'aperçoit que le petit garçon, puisqu'il a perdu sa mère, il renonce à aimer, il renonce à s'attacher par peur de la perte. Et quand on a perdu quelqu'un de cher, ou quand on perd des proches, on a tendance à s'écarter de l'amour, à s'écarter de l'affection, par peur justement d'être déçu par la perte.
Exactement, c'est ça. Ce petit chat, je n'ai pas voulu l'aimer parce que je me suis dit voilà, si c'est ce que vous avez dit quoi, s'il part, ça sera juste insupportable. Et en même temps, j'avais besoin de m'accrocher. Le petit garçon avait Bruno, en fait Cali, c'est pas grave, hein, mais le petit Bruno avait besoin de s'accrocher à tous ces bouts d'amour partout et toutes les personnes que je croisais, je m'enfouissais dans leur jupe ou je m'accrochais à leurs jambes. Parce que pour moi, c'était ma maman. Elle n'était pas partie et c'était elle et eux. Et donc, c'était ces explosions d'amour complètement dingues. Ça, j'en avais besoin. Ouais. Et en même temps, je partais après. Donc, c'est très bizarre.
Oui, parce que vous vous posez la question, d'ailleurs. Comment je vais faire par la suite? Comment on fait quand on a perdu sa maman, Cali? Comment on se construit? Est-ce que la douleur est pire avec l'âge, avec le temps?
J'ai passé la moitié de ma vie à vouloir oublier tous ces chagrins. Et aujourd'hui, j'ai envie de raconter tout ce que j'avais envie d'oublier un moment. Parce que ça m'a fait un bien fou. Je crois que ça m'a construit. Si je suis chanteur aujourd'hui, c'est peut-être grâce à cette perte. Je suis allé tout seul sur mon chemin, sans qu'on me dise « fais ci, fais ça ». J'ai juste suivi mon cœur. Et j'ai cherché, on va dire, le chemin, le meilleur chemin pour crier « j'ai besoin d'amour ». Chanteur, c'est pas mal pour ça. Et en tout cas, il y a quand même une logique perdre ses parents. Parce que, ok, je suis tombé du nid très tôt, trop tôt. Mais la résilience, quoi. On se reconstruit, on avance. Perdre un enfant, c'est l'abîme.
Ouais.
On ne peut pas se remettre de ça. Mmh. Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez fait des autres autour? Parce que vous dites aussi, qu'est-ce que je vais faire des autres? Que vais-je faire des autres autour? Ceux qui vont tenter de m'aimer, de vivre avec moi, ne devront-ils respirer que mes souvenirs de toi? Comment ça se passe avec les autres?
Ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que ma vie a été dessinée dès le premier moment. Les dés étaient jetés. C'est-à-dire que les autres qui étaient là, qui ont vécu tout ça à côté, sont restés aujourd'hui tout près de moi. Et je vis avec nos âges, nos autres chagrins, et nos pleins de joie aussi. On partage tout ça. Et c'est comme si cette histoire nous avait liés pour toute la vie.
Ouais.
Vraiment. Les autres, c'est ça pour moi.
Bon, merci beaucoup, Cali.
Merci.
Merci d'être venu dans la librairie francophone. Vous allez rester avec nous parce qu'il y a une surprise. Vous allez jouer un titre en acoustique dans notre studio, dans les conditions du direct. Seuls les enfants savent aimer est paru au Cherche Midi. C'est un très beau roman, un récit d'une grande émotion qui va forcément toucher votre sensibilité. Je vous laisse vous installer. Vous pouvez, ou avec l'émotion, ou si vous voulez, vous chantez après. Non? Ça va?
Tout va bien.
Tout va bien. Allez. Donc, je vous laisse vous installer. Vous allez jouer ce titre, Les choses défendues. À suivre le temps de l'installation de Cali, le programme, un reportage à Montréal avec Marie Laberge, dans les coulisses d'une signature avec ses fans, et le nouveau roman de la Suissesse, Pascal Kramer, qui a écouté attentivement Cali, avec émotion aussi. Voici donc Cali dans notre studio, avec une version acoustique des choses défendues dans la librairie francophone. Cali.
Souviens-toi, quand on allait le corps battant pour faire les choses défendues, t'avais la gueule d'un ange, mais c'est toi qu'on suivait pour faire les choses défendues. 14 ans. Et le corps se soulève quand on parle des choses défendues. Et la nuit et le jour, on en rêve, on en crève de toutes ces choses défendues. Une bande de vauriens, comme une meute lâchée après les choses défendues. Et au milieu, Maria, et c'est un peu pour elle qu'on a fait toutes ces choses défendues. Oui, j'ai eu peur souvent, mais Maria, oh Maria, n'en a jamais, jamais rien su. Souviens-toi, nous étions immortels, et cette vie qui nous promettait ces choses défendues. Et Maria a grandi, et c'est toi qu'elle a choisi pour faire les choses défendues. T'avais la gueule d'un ange, mais si tu revenais ce soir, je te suivrais encore pour faire les choses défendues. Nanana, nanana. Vous les mômes de 17 ans, je vous en supplie, croquez dans toutes ces choses défendues. Vous les mômes de 17 ans, je vous souhaite avec un grand sourire les choses défendues. Nanana, nanana, nanana.
Kali, avec les choses défendues dans notre studio en acoustique. Merci Kali, restez à ce micro. Titre extrait de votre dernier album éponyme dans notre studio. Donc, merci pour ce cadeau Kali. Vous serez le 18 avril à Montréal à 20h pour une rencontre lecture de votre livre au Ministère, un lieu culturel de Montréal.
Et je suis ravi de retourner dans ce pays. Chaque fois que je vais là-bas, c'est le temps qui s'arrête, c'est merveilleux, merveilleux.
Bon, merci, vous allez retourner à notre plateau, vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
Et on part justement à Montréal, les choses sont bien faites dans les coulisses d'une séance de signature avec Marie Laberge. Nous l'avions surprise en plein salon du livre de Montréal, Marie Laberge qui signera d'ailleurs au salon du livre de Québec dans quelques jours, salon qui se tient cette année du 11 au 15 avril. Voici l'ambiance d'une signature avec une auteure très proche de son public.
Bonjour Marie Laberge.
Bonjour Emmanuel Kéran. Excusez-moi. Est-ce que vous l'excusez?
Non, je dois y réfléchir.
Ça va?
Très bien. Merci. Ça va bien, j'ai chaud.
Ça se passe bien, la signature au Salon du Livre de Montréal?
Oui. Ah non, non, ça c'est toujours c'est ma récompense. C'est mon moment de bonheur. C'est drôle parce que la dame qui vient de sortir m'a dit, je viens à chaque année je retrouve avec vous le même plaisir. Mais j'ai dit, c'est à moi qu'ils font plaisir. Mais croyez-le ou non, à chaque fois j'ai peur qu'il n'y ait personne.
C'est vrai. À chaque fois.
À chaque fois.
Ah oui.
À chaque fois, quand je vois les gens qui attendent, ça me fait « Oh, ils sont là, ils sont venus !» Et ça m'émeut profondément.
Bonjour.
Oh, deux.
En fait, c'est pour ma deuxième maman, ma belle-mère, qui vous a découvert cet été parce que je lui avais offert...
Sans rien ni personne ou la trilogie ?
Sans rien ni personne, oui. Et elle habite à Antibes, en France. Et
Alors tout ça, ça repart.
Ça repart, oui.
Ça, c'est quand même drôle parce que ça, c'est une radio qui vient.
Oui, c'est Radio France.
Pas que Radio France, la RTS, la RTBF, Radio Canada.
C'est tout le monde, hein.
Ah, ok, c'est toutes les radios publiques.
En fait, c'est ça, exactement.
C'est la seule émission où on est tous ensemble.
Oui, okay. C'est ça.
Alors franchement, vous tombez pile.
Ben, tant mieux.
Vous ne pouvez pas rêver mieux. Ok, donc cette belle maman-là, elle doit être gentille. Hein. Ok, alors vous êtes ici pour longtemps?
Ben nous, on vit ici.
Mais c'est bien parce qu'avec ces livres-là, vous lui faites explorer le Québec.
Oui.
Ah, c'est bon, c'est parfait. Alors, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Lucette.
Comment vous faites, Marie Laberge, pour faire une dédicace? Vous avez des phrases toutes faites? Ou c'est en fonction de la personne que vous avez en face de vous?
Pas quand je rencontre quelqu'un qui me donne quelque chose. Moi, je m'accroche à la personne. Si la personne est trop timide et qu'elle n'est pas capable de rien me dire, mais là, je vais faire une phrase qui est plus large. Mais là, je vais parler d'Antibes, je vais parler du Saguenay, je vais parler de où j'amène votre belle-maman.
Ah, ça sera super!
Avec un joli stylo violet.
Oui, c'est
magnifique,
une belle écriture.
Stylo plume en plus, hein, Marie?
Oui.
Un tout petit stylo plume avec de l'encre violette.
Une amie française. De Lille.
C'est francophone, tout va bien.
Oui, oh non, ça vraiment.
Vous êtes très francophone, Marie.
Oui, mon cœur, il est très.
Ouais, vraiment,
très
vraiment. Vous êtes émue, hein, Marie Laberge. Hein?
Je les aime.
Ouais. Non, mais je vois dans vos yeux, vous avez les larmes aux yeux.
Je les écoute, je les aime, je reçois ce qu'on m'offre parce que c'est rare.
On sent que vous êtes vraiment avec eux. C'est très étrange parce que les signatures dans les salons du livre, on en voit partout. Tout le monde signe. Et vous, vous avez une empathie particulière, une bienveillance particulière.
Je pense que si je le faisais de façon automatique, je ne le ferais plus. Je pense que le jour où je serai fatiguée, où je trouverai que c'est trop, je vais arrêter. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le font de façon automatique. Ben, c'est pas moi. C'est tout, c'est pas mon genre.
Alors, il y a une file incroyable qui vous
pas
attend.
De problème. Moi, j'en ai deux.
Oui.
Moi, personnellement, je vous ai jamais lu.
Oh, wow!
Moi. Mais on m'a dit du bien de vous, puis on m'a dit que vos livres étaient bons.
Alors là, vous allez commencer avec Affaires privées. J'espère qu'on va se plaire.
Moi, j'aime les romans policiers, alors...
OK, bon, ben, déjà, c'est bon.
Ça vous vexe quand on vous dit qu'on ne vous a jamais lu?
Non. Non, ça me fait... C'est parfait. Ça fait, elle est vierge de moi, on va se rencontrer, ça va être peut-être une belle amitié. Ah non, non, jamais. Les gens ne sont pas supposés me lire ou ils doivent rien. Il faut que ce soit un plaisir, lire. Et si moi, je leur fais plaisir, tant mieux. Puis si c'est pas moi, il y aura quelqu'un d'autre, je le sais. Il y a toujours un livre. Pour chaque personne, il y a un livre. Il faut juste le trouver.
Une belle écriture, hein, Marie, hein?
J'essaie. Un jour, quelqu'un est arrivé et revenu après la signature. Puis il a dit, je comprends pas ce mot-là. J'ai été tellement gênée que je fais très attention d'essayer d'écrire de façon lisible.
Bonjour, Marie. Je me permets de vous dire Marie, parce que chaque fois que j'ouvre un de vos livres, j'ai l'impression qu'une amie me raconte une histoire.
Oh, que c'est beau!
C'est vrai, puis j'aime votre enthousiasme. Je vous regarde ce soir avec les gens que vous rencontrez. Ça met du soleil dans notre journée tristounette.
Qu'est-ce que vous ressentez, madame, quand Marie Laberge vous signe un livre à vous?
Tous les Marie Laberge que j'ai à la maison m'ont été dédicacés par l'auteur. Et c'est, comme je dis, la permission qu'elle me donne de les lire.
Ah, tant que ce n'est pas dédicacé, vous ne lisez pas le livre?
Je ne le lis pas. J'attends.
Ah, deux jeunes filles. Bonjour.
Une jeune fille.
Merci.
Bonjour.
Bonjour, la librairie francophone. Bonjour.
Ça me fait plaisir.
Ça va bien?
Oui. Moi, je suis ici... C'est la première fois que je vous rencontre et ça me fait très plaisir.
Moi aussi, allez-y.
Je vous dis Isabelle.
Oui.
Je présente Gabrielle.
Allô. Oh, une alors, Gabrielle.
Et quand j'ai lu Gabrielle, Gabrielle est née en 2002.
Oh,
alors en 2000.
Je le sens venir, Marie.
2001, hein, c'est ça. J'avais le personnage de Gabrielle.
Et c'était, vous avez hérité d'un personnage d'une immense douceur.
C'est incroyable parce que Marie Laberge m'a souvent dit que lorsqu'elle avait des rencontres avec des lecteurs, il y avait souvent des rapports avec le prénom.
soit on appelait les enfants de prénoms
oui, oui,
romans,
oui.
Soit il y avait un lien et tout, et c'est exactement l'illustration là. Un joli moment pour Gabrielle, là.
Oui, hein? Oui, elle va garder son Gabrielle pour sa vie.
Oui, c'est vrai.
C'est certain.
C'est le petit miracle qu'on espère, qui nous est pas dû et qui survient quelquefois.
Bon, on va vous laisser avec Gabrielle. Merci, Marie Laberge.
Merci, Emmanuel.
Vous êtes tellement généreux. C'est magnifique, ce moment, vraiment.
Mais je reçois tellement... Comment c'est Brel qui disait « Ce serait bien indécent de ne pas avoir de cœur quand on nous en donne tant. » Ce serait indécent.
Bon, je vous embrasse. À bientôt, merci. Marie.
Bye.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Voilà, Cali, vous savez ce qui vous attend à Montréal. Pour votre signature, vous avez intérêt à donner. Pascal Kramer est donc sur notre plateau dans cette librairie francophone pour son nouveau roman, Une famille, paru chez Flammarion. Vous aimez signer vos livres sur les salons, vous, Pascal?
Oui, j'en signe pas beaucoup, mais j'aime signer. Oui, pourquoi pas.
Bon, il faut qu'on vienne vous voir.
Voilà, très bien.
Alors, cette famille que vous décrivez, Pascal, est dans une forme de désespoir larvé. Elle s'articule autour de Romain, le frère aîné, qui, depuis son adolescence, s'est laissé entraîner par l'alcool. Quelqu'un qui va mal dans sa famille, ça gâche le bonheur.
Ça impacte sur chacun, surtout quand c'est quelqu'un qui va très mal comme ce Romain. Effectivement, toutes les énergies et toutes les liens s'organisent autour de cette fêlure.
Vous racontez cette vie de famille avec le point de vue de cinq personnages. Il y a les parents, l'autre frère et les deux sœurs. Leur vie bourgeoise n'est pas géniale. Leur couple ne fonctionne pas à merveille. Ils vivent des drames personnels, un peu comme une ritournelle du mal-être.
Alors, je trouve, je suis surprise par la façon dont vous l'avez
c'est
lu.
C'est un peu la ritournelle du désespoir.
Non.
Le Clésio a fait la ritournelle de la faim, vous avez fait la ritournelle
du
désespoir.
Non, pour moi, c'est une famille comme toute, il y a par moments des problèmes dans le couple. Non, je crois qu'il y a des problèmes comme dans toutes les familles. Le gros problème, c'est cette frère qui va très très mal.
Mais vous écrivez, Pascal Kramer, toute son intelligence n'était plus au service que de sa propre perte. Oui. Alors vous avez côtoyé des SDF dans un foyer, vous en aviez fait un livre d'ailleurs, on en avait parlé ici, Chronique d'un lieu en partage. C'est cette expérience qui vous a permis de définir comme ça ces personnages dans ce livre assez social finalement, assez douloureux.
Alors en fait, le livre Chronique d'un lieu en partage, c'était sur un autre lieu où j'ai passé de temps en temps, mais j'ai effectivement vécu un an et demi dans un foyer avec des gens qui avaient été à la rue. Et j'ai découvert des hommes comme ça qui, effectivement, avaient été à la rue, mais vraiment fracassés. Ce personnage de Romain est un peu inspiré de plusieurs d'entre eux. Mais voilà, quand on assiste à ça, c'est-à-dire le combat que c'est d'essayer d'être dans la rémission, d'arrêter de boire, c'est à coup de neuroleptiques. Et puis en plus, si on s'est laissé vraiment aller pendant des années, tout à coup de se retrouver sobre face à une vie quand même qui a été vraiment brisée, qu'est-ce que l'avenir peut apporter qui donne la force de tenir contre l'alcool. Et puis c'était des hommes charmants. Beaucoup sont morts depuis, jeunes. Et c'est vrai que quand on assiste à ça, c'est vertigineux.
On va laisser la parole à deux de nos libraires qui ont lu votre livre, Pascal Kramer, avec par exemple Dominique Bressot pour La Suisse. Une lecture un peu difficile au début, je crois, pour vous.
Oui, en fait, c'est avec le nombre des personnages qu'il y avait dans les deux premiers chapitres, moi j'ai craint le pire, quoi. J'arrivais pas à retenir les noms, quel était le lien entre eux. Mais en fait, très vite, j'ai saisi que tout se tournait autour d'un seul homme. Mmh. Et on voit pêle-mêle dans ce roman, non seulement qu'on peut rien contre l'alcoolisme d'un autre, et aussi comment la pudeur des sentiments, le besoin de conserver les apparences aussi, ça sert finalement seulement à retarder l'issue fatale. Et c'est un cercle vicieux que j'ai trouvé admirablement décrit. Et c'est un roman extrêmement fort en désespérance. Et il est très, très marquant.
Bien. Déborah Damblon pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, 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 tout à fait. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans votre roman, c'est le côté cinématographique de votre écriture, parce qu'elle est nette, elle est précise, et on sent que chacun des mots, eh bien, chacune des expressions, vous les avez pesées, vous les avez ciselées, et c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a attirée en début de lecture, parce que comme Dominique, moi, je me perdais dans les personnages, dans les situations, et grâce à vos mots, eh bien, ils ont pris corps, et maintenant, vos personnages, je les vois comme s'ils existaient. Et je trouve que là, vous êtes arrivé à nous mettre tout à fait en empathie avec eux.
Et pourtant, Pascal Kramer, si je peux atténuer un petit peu, c'est un livre très difficile à lire. Sans doute votre livre le plus difficile, Pascal, je crois que je les ai quasiment tous lus. Déjà parce qu'il y a cette souffrance et cette dimension glauque tout au long de l'histoire, et puis car vous utilisez un style assez alambiqué, assez lourd, avec de longues phrases comme ça qui nous obligent à vous lire de façon assez scolaire, lentement, attentivement, pour qu'on comprenne bien finalement le sens de vos phrases qui sont très longues. Il y a comme des vapeurs d'alcool dans votre écriture.
Alors écoutez, moi j'ai l'impression d'écrire comme toujours, il y a des phrases plus longues et d'autres plus... Là, je sais pas quoi vous répondre.
Vous n'avez pas pris conscience de ça, de cette difficulté qu'on aurait à le lire ?
Non, et puis c'est la première fois que je l'entends, mais peut-être que j'ai pas entendu tout le monde.
Alors, Thomas Auxerre, pour la France.
Alors moi, écoutez, je m'attendais à un livre tire-larme, et en fait... Pas du tout. Il y a une alternance de points de vue, moi, que j'ai aimé dans cette famille dysfonctionnelle. Et en plus, j'ai trouvé que, voilà, c'est malicieux et ça fonctionne. C'est un roman où tout le monde se parle, où on a un petit peu de mal à se comprendre hein, quand même. Mais ça, j'ai aimé aussi. Il y a toujours l'amour qui ressurgit aussi. Donc, je découvre votre travail et j'en suis très content.
Bien. Bah, écoutez, pour l'instant, tout va bien. Allez, on finit avec le Canada. Marie-Noël Blé, vous voulez le commentaire du Canada ?
Écoutez.
C'est la pire de toutes. Marie-Noël, à Montréal.
Moi, ce roman m'a laissé vraiment dans un état d'empathie pour les personnages. Et j'ai trouvé l'histoire tellement juste, tellement douloureuse et puis surtout criante de vérité. Étrangement, alors que le récit a quelque chose d'asphyxiant dans son impossible résolution, on trouve un souffle dans la bonté inouïe de ces personnages qui pourtant voient constamment leurs espoirs s'étioler. C'est riche, c'est bouleversant et c'est une lecture qui laisse une petite engelure au fond du cœur.
Bien, vous avez donc séduit toutes nos libraires.
J'aurais voulu vous séduire, mais tant pis.
Ah pourquoi ? J'ai rien dit. J'ai dit que c'était difficile à lire, oui. Allez, j'avoue. D'accord. Bon, on va terminer avec cette famille comme ça, qui vit sans cesse de petits séismes, mais qui arrive, et c'est ça qui est positif dans votre ouvrage, et effectivement ce n'est pas tir à l'arme, ça c'est clair, qui arrive à rester soudés malgré tout, avec leur maladresse. Ils restent quand même proches, malgré les drames.
Oui, ils restent proches, et puis ils se mélangent beaucoup les uns les autres. C'est vrai que personne n'utilise ça, il n'y a pas de manipulation. Tout le monde essaye de laisser les autres libres dans leur choix de vie et dans leur bonheur, mais après c'est présent et c'est culpabilisant pour tout le monde.
Ouais. Et comme dit la mère Danielle, au bout du compte, personne ne souhaite plus rien à Romain. C'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'à force d'être mal, à force d'être au fond du gouffre, on se marginalise complètement.
Oui, quand on passe des années, le personnage a passé des années à la rue, après c'est vraiment très très difficile de remonter, il y en a qui y arrivent. Les rechutes, c'est extrêmement perturbant pour l'entourage, parce qu'on se dit toujours à quand la prochaine, à chaque fois que la personne émerge, on se dit à quand la prochaine, c'est ça qui est très difficile à vivre.
Cali, vous avez connu des personnes comme ça ? Vous avez été confrontée à ce problème-là ?
Oui. Et ma question, je n'ai pas encore lu votre livre, mais vous m'avez donné très envie de le lire. À la fin, est-ce que l'on a des réponses ou c'est justement on n'a jamais de réponse à tout ça ?
Alors moi, je n'en mets pas dans le livre parce que je suis pas médecin, je sais pas pourquoi il tombe là-dedans. On a des intuitions, mais je le sais pas. Moi, je donne à voir parce que je donne à voir ça qui m'a moi-même plongé dans un chagrin existentiel total.
Il y a votre papa, d'ailleurs, dans le livre Cali, qui à un moment, puisqu'il sombre dans le désespoir au décès de votre mère,
qui
se retrouve dans les bars et vous allez le récupérer, vous. Hein. Avec un copain, vous allez le récupérer.
Je vais le récupérer,
à 6 ans.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on le ramène à la maison et c'est compliqué, Mais quel âge a Romain ?
Quand il commence à plonger, il est adolescent.
Il a 16 ans.
Au temps du roman, il a 38 ans.
Ouais. D'accord. Oui, donc c'est toute une vie quasiment.
Oui.
Et la maman fera un constat de colère. Elle dit « Je suis sûre d'une chose, c'est que la vie est un don sacré qu'il est lâche et criminel de piétiner. »
Elle est croyante. Moi, je me suis surprise à me mettre dans la peau d'une personne croyante, parce que je ne le suis pas du tout. Et en fait, j'ai réussi en me disant que ça n'empêchait pas qu'elle soit en colère. Hein.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans ce personnage.
Bien. Merci beaucoup, Pascal Kramer.
Merci
d'être venu dans cette émission. Vous êtes un peu chez vous ici, maintenant.
Oui.
En plus, avec les libraires qui sont tous avec vous aujourd'hui. Une famille est parue chez Flammarion. À suivre la chronique des libraires et une séquence livre de poche avec l'Iranienne Negar Javadi et la participation d'Alain Chanfort. Avant cela, on écoute le duo malien Djeneba et Fusco dans la librairie francophone.
Non, non, non. Moi j'ai dit non, non, non. Non, non, non. Moi j'ai dit non, non, non.
Geneva et Fusco, riche, magnifique titre malien dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires et leur coup de gueule, avec leur coup de cœur aussi quand même, tous ensemble. Marie-Noëlle Blé au Canada, un coup de gueule qui concerne Dany Laferrière,
oui,
notre chroniqueur de luxe de l'émission, qui était la semaine dernière chez nous.
Bon, pas tout à fait un coup de gueule pour Dany Laferrière, bien évidemment. Évidemment, comme vous savez, Emmanuel, ce livre d'un auteur de chez nous dont on parle énormément en France,
oui.
Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on ne l'a pas encore reçu, nous, au Québec. Les lecteurs québécois y auront accès seulement le 10 avril.
Autoportrait de Paris avec chat.
Exactement. Donc, on peut comprendre peut-être les raisons d'une sortie différée. Hein. Les pressions a dû se faire sur les presses de Grasset, puis après, il y a le transport.
Hein. Oui.
Mais voilà, on se retrouve, nous, les libraires québécois, à devoir faire, pour un livre de Dany Laferrière quand même, ce qu'on fait à longueur d'année avec les auteurs européens à succès, à savoir rappeler aux lecteurs la patience que requiert l'importation.
Oui, il sort cette semaine chez vous, on l'avait annoncé, hein, on l'a dit la semaine dernière, ça sortait d'abord en Europe chez Grasset, et ensuite chez Boréal, il faudra voir avec Boréal, vous arrangerez avec eux. Merci Marie-Noël. Déborah Damblon, un coup de cœur pour un autre grand auteur belge, celui-ci.
Mais oui, Emmanuel, si je vous dis 1958, vous me répondez ?
Alors, bon, on m'a soufflé, c'est l'exposition universelle.
Mais oui, vous devez me répondre, je ne suis pas née, Déborah,
je ne suis pas née.
Moi
déjà,
non plus,
c'est sûr.
Emmanuel.
Allez-y.
Mais c'est pas grave, en Belgique, 1958, c'est, comme vous l'avez dit, l'exposition universelle. Et je peux vous dire que tous ceux qui l'ont connue, ils ont encore des papillons dans les yeux quand ils en parlent. Et cette fois-ci, on va retrouver l'exposition universelle, mais avec un grand auteur, vous l'avez dit, Alain Berenbaum, oui. Et son fidèle détective Michel Van Loo. Et évidemment, il y a un mystérieux tueur, il y a les prémices du grand événement quand on a tout mis sur pied, et c'est super.
L'Expo 58, l'espion perd la boule, c'est aux éditions Genèse. Merci Déborah. Thomas Auxerre pour la France. Pas de devinette s'il vous plaît. Un coup de cœur pour un premier roman.
Oui, un coup de cœur pour un premier roman. Elle est née en Biélorussie. Elle écrit en français car elle dit elle-même qu'elle a trouvé un endroit où elle peut réfléchir. C'est un texte qui s'appelle « Dans l'eau, je suis chez moi ». Elle s'appelle Aliona Gloukova. Bon, c'est son papa qui a disparu en Biélorussie. Il buvait un petit peu. Enfin, ça ressemble un petit peu au livre de nos invités. Mais voilà.
Pascal
surtout,
Kramer, ouais.
Oui, c'est ça. Elle nous raconte son destin. Écoutez, c'est une écriture millimétrée, elle dit avec peu de choses, elle dit énormément de choses. C'est un livre qui va vous emporter, c'est exotique, enfin vraiment, c'est vraiment génial. Enfin,
ça va être gay encore.
J'ai adoré. Eh ben, c'est pas triste du tout, et surtout, c'est extrêmement bien écrit, vous allez voir, c'est super.
Bien. On va vous suivre peut-être. Dans l'eau, je suis chez moi, aux éditions Verticales. On termine avec le coup de gueule de Dominique Bressoux pour un livre qui a été un coup de cœur d'un autre libraire, figurez-vous. Allons-y, Dominique.
Oui, alors c'est plus une déception qu'un coup de gueule, en fait. Oui. C'est parce que c'est un livre qui promettait beaucoup au premier chapitre, avec une histoire hallucinante basée sur un fait réel. Ça se passe pendant le carnaval en Colombie. Mmh. Un vagabond est laissé pour mort dans une cuve de formol de l'université de médecine. Et le pire que vous puissiez imaginer, c'est rien à côté de ce qu'il y a dans le livre. Mais voilà, l'auteur, Pierre Béguin, il en fait vraiment des tonnes dans l'hémoglobine. Il a la note explicative sur le carnaval extrêmement longue, ce qui coupe le rythme d'une très belle écriture par ailleurs. C'est dommage et ça gâche à mon avis ce livre qui aurait pu être excellent.
Voilà, le débat est lancé en Suisse puisque le coup de cœur c'était, je crois, Claire Renaud, autre libraire suisse, vous arrangerez aussi avec elle.
J'ai une amie de plus.
Voilà, c'est ça. Merci Dominique, c'est aux éditions Bernard Campiche et La mort se mit à parler. Dans cette plus grande librairie du monde, on va à présent dans le rayon des livres de poche avec l'auteur franco-iranienne Negar Javadi. Elle avait publié en 2016 Désoriental, un roman sur l'homosexualité interdite en Iran, qui avait connu un grand succès grâce au bouche à oreille et grâce au travail des libraires. Il vient de sortir en poche chez Liana Levy. Voici un extrait de son entretien dans la librairie avec la participation d'Alain Chamfort. Alain Chamfort qui ouvre cette séquence avec une lecture sur la musique iranienne de la chanteuse Gogosh.
که گفتی شکسته دل من مگه جامه بلور دل تو به امیدی نشسته دل من مگه سنگ صبور دل تو
داریوس m'acheta un jean et des chaussures montantes. Il me coupa les cheveux lui-même, si ras qu'à peine lavés ils étaient secs. En d'autres temps, ma tête aurait horrifié à des kilomètres à la ronde. Mais cette année-là, grâce à la célèbre chanteuse de variété Gogosh, apparue un soir à la télévision les cheveux aussi courts qu'un garçon, la coupe Gogoshi devint à la mode. Libérées d'un coup de l'obligation de porter les cheveux longs, les filles faisaient la queue devant les salons de coiffure de Téhéran pour ressortir avec la tête de leurs frères. Il faut dire qu'à cette époque, dans cet Iran américanisé, les repères avaient commencé à s'émousser. Les jeunes, principalement ceux issus de la classe moyenne et aisée, tendaient vers une sorte d'unisexualité universelle. Je sais combien il vous est difficile, au regard de ce qu'est devenu ce pays, d'imaginer cet Iran-là. Cet Iran où les filles portent les cheveux courts et les garçons les cheveux longs. Où les jeunes s'habillent indifféremment avec des tuniques amples et des pantalons pas de def et se retrouvent à la tombée de la nuit dans les coins sombres de la ville pour fumer des Marlboro et échanger leur salive.
Toi qui gonflis, j'ai gasté des lémanes, ma guéjomé, au lourd et des lettres. Tel darin dure zamone, des chodoches de bahoune, archichot darin miune, midi taxir et des lettres, corre del chemoschele.
Un extrait de Désoriental, lu par Alain Chamfort. Negar Javadi, très belle lecture, hein, qu'en pensez-vous?
Magnifique.
Magnifique
merci.
Lecture, en direct, comme ça, sur le plateau. Effectivement, cette unisexualité, elle est acceptée dans un pays où l'homosexualité est condamnée.
L'homosexualité est condamnée, c'est un immense tabou en Iran, l'homosexualité. C'est même pas condamné, puisqu'on n'en parle pas. D'ailleurs, c'est aussi simple que ça. En revanche, la transsexualité est acceptée. Mmh. Voilà, donc c'est les paradoxes d'une société iranienne qui a toujours été une société très paradoxale. Et l'homosexualité, la transsexualité fait partie de ces paradoxes.
Et il faut choisir, c'est ça. Être transsexuel, choisir. C'est possible. D'ailleurs, c'est le pays au monde, après la Thaïlande, où il y a le plus d'opérations de changement de sexe.
Absolument.
Et ça, ça pose de problème à personne en Iran.
Non. Parce qu'il faut être un homme ou une femme.
Voilà.
Donc, une fois qu'on devient un homme, une femme, ça va, on rentre dans les repères établis et on peut continuer à vivre. L'entre-deux, on ne sait pas se dépatouiller avec. Et d'ailleurs, ça pose énormément de questions. Une fois que, si on l'accepte, ça pose énormément de questions. Donc, on préfère ne pas l'accepter, le mettre sous le tapis. Voilà, ça tombe bien. Et voilà, la transsexualité, on l'accepte, mais ça génère d'autres drames, puisqu'il y a énormément d'homosexuels qui changent de sexe pour pouvoir vivre avec la personne avec qui ils sont. Ouais. Donc du coup, ils ne sont pas transsexuels, ce qui amène d'autres drames. Voilà.
On condamne encore les homosexuels à mort en Iran ?
Absolument. Il y a 2 mois à peu près, il y a un garçon de 19 ans qui a été pendu parce qu'homosexuel.
On estime à 4000 pendus, on les pense sur des grues, c'est ça, en
absolument.
Public.
Et sans doute plus, parce qu'on dit 4000.
Des adolescents, des hommes, des femmes, peu importe.
Toutes sortes de tout âge. femme, homme, adolescent. Mmh. Absolument.
Alors c'est vrai que dans Désoriental, vous racontez l'histoire de la Perse, les mouvements politiques en Iran, cela complique un peu le récit, hein, pour être honnête. Cela nous désoriente parfois, autant que vos personnages sont désorientés. Parce que, selon vous, en tout cas d'après votre écriture, tout est en relation, tout est complexe et imbriqué.
Oui, que ça vous désoriente, j'en suis un peu désolée, mais je trouve pas ça plus mal. Ouais. Parce que bon, finalement, l'histoire est compliquée avec un grand H. Ouais. Et les petites histoires aussi. Donc, il faut peut-être être un peu, voilà, bousculé pour y aller et pour l'écouter. Et d'ailleurs, Kimia prend la parole pour ne pas être interrompue, parce qu'elle pourrait l'être interrompue, justement. Elle désoriente un peu, mais l'histoire de l'Iran est extrêmement complexe. L'Iran, c'est un pays géopolitiquement placé d'une certaine manière qui fait que les Occidentaux ont toujours été présents dans ce pays. Donc raconter l'histoire de l'Iran, c'est aussi parler de l'Europe, et encore plus de l'Europe d'aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé en 1979, voilà, donc on ressent les échos tous les jours de ce côté-là du monde. Et puis l'exil, c'est vrai qu'au sens strict du mot, c'est-à-dire ne pas pouvoir retourner chez soi, c'est une chose absolument terrible. C'est une injustice telle qu'il faut pas y penser, quoi.
Comment l'avez-vous vécu, cet exil, vous ?
De la même manière, c'est-à-dire moi j'y pense de moins en moins et voilà, je fais ma vie en France et on me dirait va t'installer en Iran que j'irai pas, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que quand on pense qu'il y a des gens qui se donnent le droit de vous interdire de retourner chez vous, ouais, et au nom de quoi, c'est inimaginable.
La mère de Kimia lui dit un jour « Quelle que soit ta vie, débrouille-toi pour faire des enfants. Il faut faire des enfants, tu sais, c'est la seule consolation. » Quelle consolation ?
Par rapport à un monde cruel, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en fait. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. J'aimerais bien... Il y a la musique aussi.
Ouais, ouais. Il y a beaucoup de questions de musique, d'ailleurs. Oui. Alors, ce n'est pas Alain Chamfort, c'est U2, Tindersticks, PJ Harvey aussi, que vous citez.
Même si moi, j'ai écouté Alain Chamfort, oui. Le personnage. Moi, il m'est arrivé d'écouter Alain Chamfort. Ouais. Donc, voilà, donc, dans un monde cruel, dans un monde qui ne pardonne rien et qui fait qu'on est en exil ou qu'on meurt sur des bateaux, peu importe, voilà, tous les drames du monde, où trouver la consolation ?
Et le livre de Negar Javadi, Désoriental, est paru en poche chez Liana Lévy dans la collection Piccolo.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jacques Higelin nous a donc quitté, grand fidèle de la librairie francophone. Ce poète-chanteur a porté la langue française à travers toute la francophonie, toute sa vie. Nous sommes évidemment très tristes, car il est parti plutôt jeune, et il nous laisse tant de souvenirs. Il a rejoint là-haut son frère Paul, mon ami. C'est la seule chose qui me console un peu aujourd'hui. Nous lui rendrons hommage la semaine prochaine. En attendant, voici une petite tranche de vie.
Deux amants sur le quai du départ, l'espoir au fond des yeux, sans savoir que le revoir est un adieu. Si chacun savait dès le début le fin mot de l'histoire, tu m'aurais, je t'aurais quitté avant qu'il soit trop tard. Une tranche de vie entre deux tranches d'oubli, le temps a confondu nos traces. Un malentendu suivi d'un aller sans retour, l'amour a perdu la face. Ça ne changeait jamais d'avis, ni d'envie quelle qu'elle soit.
Et on arrive au terme de cette émission. Merci à Jean-Philippe Véret, Christophe Magère et notre réalisateur Henri-Marc Mutel à la technique, Éric Morin, Florent Beauvallet et Ludovic Asselot. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec Daniel Pénac. Nous rendrons aussi hommage à deux poètes, Aimé Césaire, disparu il y a 10 ans tout juste, et bien sûr, Jacques Higelin. Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Hommage à Jacques Higelin, après les infos jusqu'à 18h.
Oui, une émission spéciale qui permet de le rendre rencontrés à plusieurs reprises et dans des cadres différents au fil des missions que vous connaissez, hein, Boomerang ou Hors Champ de Laura Adler. Ouais. Et donc plein de façons différentes de rencontrer Higelin ici dans ses studios ou chez lui à Pantin.
Et la rediffusion d'un concert à Radio France en 2007, ce sera ce soir à 22h. À tout à l'heure, Rebecca.
À tout de suite.